l'Église orthodoxe aujourd'hui. Bonjour à tous. Le 10 mai, l'Assemblée générale extraordinaire de la paroisse de Saint-Archange de l'Église romaine de Paris a décidé en unanimité de passer sous la juridiction de Mgr Joseph, métropolite de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale. En ce dimanche où l'Église orthodoxe célébrait le miracle de la guérison du paralytique, un nouveau miracle s'est ainsi produit. A été guérie la blessure de la séparation entre l'Église de l'exil roumain à Paris et l'Église mère, le patriarcat de Roumanie, après plus de 60 ans de division. En vérité, à notre époque, marquée par la haine et la division, le fait de retrouver l'unité après une si longue séparation est à la fois événement historique et miracle. Je dois rappeler d'abord qu'au XXe siècle, les chrétiens orthodoxes ont été moins séparés par des problèmes liés à la foi que par les vicissitudes de l'histoire. Il s'agit de l'arrivée au pouvoir des régimes communistes dans à peu près tous les pays majoritairement orthodoxes, sauf la Grèce et le Chypre. Ainsi, l'Église roumaine de Paris, paroisse fondée en 1853, s'est séparée du patriarcat de Roumanie en 1948, l'année où l'installation du communisme dans ce pays était devenue évidente. Après l'ordination de Mgr Joseph comme archevêque à Paris, en 1998, a commencé un rapprochement entre la paroisse des Saints-Archanges et la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale. Le métropolite Joseph a ordonné deux prêtres pour cette paroisse. Le dimanche 25 novembre 2007, la paroisse orthodoxe de Saint-Archange de l'Église roumaine de Paris a célébré le 125e anniversaire de l'achat de cette église par le roi de Roumanie Charles Ier et le 115e anniversaire de sa consécration par l'évêque Innocent Ploieșteanul, événement que j'ai présenté dans l'émission réalisée à cette occasion. C'était déjà la troisième fois que Mgr Joseph concélébrait ici avec Mgr Nathanael, archevêque de Detroit et du diocèse roumain de l'Église orthodoxe d'Amérique, dont cette paroisse dépendait depuis l'année 2000. Il a aussi ordonné diacre le médecin Jean Boboc. À la fin de la liturgie, Mgr Joseph a lu un message de sa béatitude Daniel, le nouveau patriarche de Roumanie, dans lequel celui-ci demandait pardon et pardonnait pour tout ce qui a été affligeant dans les relations entre l'Église orthodoxe roumaine et cette communauté de la diaspora à l'époque du régime communiste. C'était un moment de réconciliation qui a ému jusqu'aux larmes évêques, prêtres et fidèles. Pour la première fois après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où l'Union soviétique a imposé à la Roumanie son régime politique, dans cette église a été lu un message d'un patriarche roumain, le message qui était tellement attendu. Le courage de se rapprocher et le pardon sincère ont porté des fruits le 10 mai 2009 par la réconciliation définitive de l'Église roumaine de Paris avec l'Église orthodoxe de Roumanie. Cet événement historique ouvre une nouvelle page dans l'histoire de l'Église roumaine de Paris, qui devient la cathédrale de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale. Mais l'histoire de l'église située au cœur du quartier latin, au 9 bis rue Jean de Beauvais, dans le 5e arrondissement de Paris, a commencé au XIVe siècle. C'était en 1374 que le roi de France Charles V a fondé cette église gothique, la chapelle Saint-Jean l'Évangéliste du collège de Beauvais, quelques décennies après la fondation, à l'autre bout de l'Europe, des deux principautés roumaines, la Valachie et la Moldavie. Cinq siècles plus tard, en 1882, un autre roi Charles, cette fois-ci le roi de Roumanie, a acheté l'église pour la paroisse orthodoxe roumaine de Paris, dont les membres étaient en majorité des étudiants. L'intérieur de l'édifice a été remanié pour correspondre au culte orthodoxe. La nef et le sanctuaire ont été en même temps séparés et unis par une iconostase en bois précieux, surmontée d'une croix fleur-de-lysée, rappelant discrètement la fondation de l'église par le roi de France Charles V. Désormais, elle sera l'église orthodoxe roumaine de Saint-Archange. Ainsi, dans cette église du quartier latin, se sont rencontrées les cultures des deux peuples d'origine latine, français et roumain, un de l'Occident et l'autre de l'Orient, de l'Europe chrétienne. Le dimanche de la guérison du paralytique, lors de la divine liturgie présidée par le métropolite Joseph, entouré par 8 prêtres et 3 diacres, le diacre médecin Jean Boboc a été ordonné prêtre pour cette église. Issu d'une famille franco-roumaine, le père Jean fait partie de la paroisse des Saints-Archanges de son plus jeune âge. Ainsi, son ordination le 10 mai est chargée de signification. C'est aussi pour cela qu'il est l'invité de mon émission d'aujourd'hui. J'ai demandé d'abord au père Jean Boboc de nous présenter brièvement l'histoire de la douloureuse séparation qui a marqué la diaspora roumaine à Paris depuis plus de 60 ans.
Alors, l'histoire de notre séparation, comme vous dites, en fait, il faut aujourd'hui parler de l'histoire de notre réunion. Car en fait, il n'y a jamais eu de séparation. Il y a eu un moment douloureux d'obligation d'éloignement, mais nous avons des preuves historiques et des témoignages écrits qui nous montrent que nous n'avons jamais perdu les liens avec l'Église mère et que nous avons même reçu des messages très confidentiels nous disant « Restez indépendants, tout ce que vous verrez écrit de nous n'est pas de nous ». Mais remontons un peu l'histoire. La communauté roumaine de France n'est pas une communauté tout à fait nouvelle. Les premiers rapports entre la France et la Roumanie en termes d'échanges d'étudiants, etc., datent des années 1840, les époques des révolutions nationales en Europe, et puis des premiers réfugiés de Moldavie, de Valachie, de Transylvanie, à la suite de ces révolutions nationales, qui avaient donc des ennuis chez eux et qui étaient à risque, et qui sont venus faire des études en France, qui ont lié des liens très étroits avec de très nombreuses personnalités françaises, et il est inutile de rappeler l'importance qu'a eu Napoléon III avec les principautés roumaines, dont vous savez qu'actuellement il y a une superbe exposition au musée de Compiègne. Tout allait bien, la communauté donc se formait, se groupait, une première petite chapelle avait été formée dans un appartement de la rue Racine, dans le 5e arrondissement, et le roi Charles Ier, il y a exactement 126 ans aujourd'hui, a décidé d'acheter ce qu'on appelait la chapelle de Beauvais, qui est l'église actuelle, à l'État français. C'est une église qui est aujourd'hui un monument historique et qui est considérée par l'architecte en chef des monuments historiques de Paris comme le bâtiment religieux le plus documenté de Paris. C'est dire à quel point les archives sont importantes. Cette église, donc, abîmée lors de la Révolution, a ensuite été transformée en, on n'ose pas dire en quoi, un espèce de débarras où les silos de différentes choses ont été entreposés. Donc la chapelle a été rachetée, ainsi que les bâtiments qui étaient autour, la maison paroissiale, et elle est devenue l'église de la communauté roumaine de Paris, sous le nom des Saints Archanges, Gabriel, Michel et Raphaël. Cette communauté s'est développée jusqu'à la dernière guerre. Et c'est là où, vous avez parlé tout à l'heure de séparation, c'est là où s'est produit effectivement l'éloignement, car la communauté roumaine de Paris ne pouvait pas envisager de vivre avec des fonctionnaires religieux parachutés de Bucarest, ni de recevoir des ordres de Bucarest à une époque où la guerre froide s'installait. Il a donc fallu, de façon extrêmement douloureuse pour le clergé, trouver des modalités d'autres obédiences, et c'est ce qui a été fait. Il faut souligner d'abord le rôle extrêmement important qu'a eu Mgr Vissarion Puiu, qui a créé, il y a exactement 60 ans, l'éparchie orthodoxe roumaine d'Europe occidentale, située ici en tant que siège, et rayonnant sur toute l'Europe occidentale, il y avait énormément de paroisses rattachées à cette cathédrale, car l'église de la rue Jean de Beauvais était déjà par Mgr Vissarion Puiu, élevé au rang de cathédrale métropolitaine.
Mgr Vissarion Puiu a été envoyé à Paris par le patriarcat de Roumanie, avant l'arrivée des communistes au pouvoir, n'est-ce pas?
Tout à fait. Et comme vous le savez, il a eu de très graves ennuis, puisqu'il a été condamné à mort par les autorités communistes, pour notamment son activité extraordinaire d'ailleurs, qu'il a eue en Transnistrie, région qui, à l'heure actuelle, est bien connue de ceux qui lisent les journaux. Puisqu'il s'agit de l'abcès de fixation que l'impérialisme russe maintient envers et contre tout pour empêcher la réunification de la Moldavie à la mère patrie. C'est un point sur lequel les Roumains, d'une façon générale, ne renonceront jamais à ces territoires, et qui crée un problème religieux parce que l'on nous accuse volontiers de philétisme. C'est-à-dire que nous voudrions poser la question: qu'est-ce qui est le pire, le philétisme ou l'antiphilétisme? Parce que sous l'antiphilétisme se cache un désir hégémonique qui ne cache même pas son nom. On fait une petite parenthèse par rapport au sujet sur lequel vous m'interviewez, mais la situation en Moldavie est la suivante. C'est un territoire d'environ 4 millions d'habitants roumanophones, parmi lesquels il y a quelques russophones, qui ont été amenés pour remplacer les Roumains qui ont été déportés. Et aujourd'hui, on essaie de nous expliquer que la population moldave, c'est-à-dire roumaine, est totalement désireuse d'être rattachée à Moscou, Hein, c'est une galéjade, hein, c'est une stupidité qu'aucun linguiste ne peut, qu'aucun linguiste distingué. Il y en a d'autres, mais qu'aucun linguiste sérieux ne peut avaler. Bon, revenons à notre sujet. Donc, il y a eu séparation et recherche d'une autorité épiscopale qui puisse nous prendre sous son aile canonique. Alors, ceci a été réalisé par la suite avec l'aide des Russes aux frontières, qui ont été absolument merveilleux. Et notamment Mgr Filaret, dont je garde un souvenir ému de sa petite silhouette frêle et fluette qui ne buvait que du thé et qui nous a laissé une liberté totale. C'est-à-dire que nous avons gardé notre calendrier, nous avons gardé notre langue. Enfin, il nous a donné simplement la couverture canonique. Et grâce à lui, nous avons pu vivre et nous développer sans avoir de rapport avec le régime communiste de Bucarest.
Vous avez appelé à une église russe aux frontières, donc qui avait eu en son temps le même problème que vous. Donc trouver une solution au moment quand la Russie est devenue le premier pays communiste du monde.
Tout à fait. Et véritablement, ayant souffert les mêmes maux, nous nous sommes très bien entendus. À cette époque-là, l'église était dirigée par un homme dont il faut rappeler le nom parce qu'il a été l'âme de cette église, et il l'est toujours, l'âme de cette église, même s'il est aujourd'hui dans le Seigneur, c'est le père Vassili Boldeanu, qui a tenu à bout de bras cette église pendant un temps infini. Malheureusement, il est tombé malade, et profitant de sa faiblesse, certains nous ont envoyé des prêtres qui n'étaient pas tout à fait désirables. Donc nous sommes passés par une période de turbulence où naturellement ceux que j'appelle les hégémonistes avaient l'œil sur nous, car cette magnifique cathédrale au cœur du quartier latin faisait bien des envieux. Et de façon à pouvoir éviter de tomber sous une hégémonie étrangère, nous avons eu la chance inouïe d'être secourus par son éminence l'archevêque Nathanaël de Detroit, et chef de l'Église orthodoxe roumaine d'Amérique, qui nous a pris sous son obédience, sous son homophore, et qui nous a permis de nous développer durant ces 10 dernières années en toute tranquillité. Et ces dernières années ont été très utiles parce qu'elles ont permis aux uns comme aux autres de nous connaître. Vous me direz, mais vous auriez pu, déjà depuis 10 ans, puisque le communisme officiellement était terminé en Roumanie, vous rallier à l'Église mère. Vous pouvez poser cette question. Mais à l'époque, nous n'étions pas mûrs pour le faire. Non seulement nous n'étions pas mûrs pour le faire, mais peut-être que de l'autre côté, on n'était pas non plus mûrs pour nous absorber. Je veux dire par là qu'il fallait que nous nous connaissions. Et ça a pris du temps. Alors, aujourd'hui, c'est un mariage d'amour, c'est clair. Mais c'est un mariage d'amour qui s'est fait dans le temps. Nous avons appris à connaître la métropole, à admirer le travail magnifique qui a été fait par son éminence Mgr Joseph, le métropolite d'Europe occidentale et méridionale. Travail qu'il a fait en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, etc. Et le développement considérable des communautés, je crois qu'il y en a plus de 300 aujourd'hui, c'est tout à fait admirable. Et donc nous avons eu dimanche dernier, après de multiples travaux, de conseils, d'assemblées générales, etc., une assemblée générale extraordinaire de nos associations qui, à l'unanimité, a voté le rattachement. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, l'union est faite, le retour à l'Église mère est fait, en fait. Et nous attendons avec grand plaisir l'arrivée du patriarche, sa béatitude Daniel, au mois de juillet, pour une reconsécration de l'Église, et puis pour les retrouvailles. Mais nous avions déjà eu des rapports très étroits avec le patriarche Daniel, qui est venu ici il y a quelques années pour faire l'ordination épiscopale de Mgr Marc, un Français très roumanophone et roumanophile. Nous avons eu d'autres ordinations et véritables réunions d'évêques dans cette église. Donc la communion est totale depuis déjà longtemps. Simplement, le passage officiel n'avait pas été fait. Or aujourd'hui, c'est chose faite.
Thank you.
Père Jean Bobok, c'est toujours un vrai miracle quand deux communautés ecclésiales, deux églises orthodoxes se réunissent, surtout quand il s'agit de 60 ans de séparation. Bien sûr, ce processus a pris du temps. Il y a eu plusieurs étapes pendant les dernières 10 années qui ont marqué ce rapprochement. Je vous prie d'évoquer un petit peu plus en détail ces étapes et leur importance.
Vous avez tout à fait raison de souligner cet aspect des choses. Tout d'abord, il faut rendre hommage à Mgr Nathanael des États-Unis pour le rôle admirable qu'il a eu et qu'il a joué. D'abord en comprenant l'urgence que nous avions d'être pris sous une obédience, même si d'un point de vue canonique la chose était un peu discutable sur le plan territorial puisqu'il est aux États-Unis, mais il a fait jouer ce qu'on appelle en orthodoxie l'économie.
C'était assez compliqué la situation parce qu'on rappelle que Mgr Nathanael, c'est l'évêque roumain de l'église orthodoxe américaine qui est une église autonome des États-Unis. Voilà, c'est une église des États-Unis, donc qui normalement n'a pas de paroisse en Europe.
Tout à fait, c'est pour ça que je souligne le terme d'économie, c'est-à-dire une entorse acceptable et acceptée au saint canon pour rendre un service précis, dans un cas d'urgence. C'était le cas. Mais Mgr Nathanael a toujours été extrêmement clair sur le fait que ce ne pouvait être que provisoire. Et il nous demandait toujours de réfléchir à la solution qui serait la plus acceptable pour nous dans un avenir proche. Et c'est pour ça que nous avons eu des comités qui se sont réunis avec de grandes fréquences et analysé la situation. Toutes les possibilités canoniques ont été envisagées. Mais très vite, la solution roumaine était de toute évidence la seule acceptable, dans la mesure où il n'était pas pensable qu'une église qui a été résistante et nationale, sans être filétiste pour autant, aille dans une autre obédience que celle du patriarcat de Roumanie. C'eût été un non-sens. Donc cette question-là était dans le pipe, et c'était vraiment ce que Mgr Nathanael souhaitait, et pour lequel il nous a vivement encouragé de travailler, et c'est ce qui s'est passé. Mgr Nathanael est venu plusieurs fois, célébrer notamment le dimanche de Thomas, et nous envoyait régulièrement des lettres pastorales. Nous avons eu avec lui des rapports excellents. Il a été un excellent pasteur et il a su aussi très bien nouer des relations avec Mgr Joseph, le métropolite roumain, ainsi qu'avec le patriarcat de Bucarest pour d'autres problèmes canoniques qui occupent les États-Unis.
Donc on peut dire qu'il y a eu 3 ordinations qui ont marqué autant d'étapes importantes dans ce processus de rapprochement. D'abord une ordination sacerdotale, ici dans cette église de Saint-Archange. Ensuite une ordination épiscopale, quand Mgr Marc, l'évêque vicaire du métropolite Joseph, a été ordonné ici par des évêques venus de Roumanie, d'Europe, mais aussi Mgr Nathanael des États-Unis.
Tout à fait, Mgr Marc a finalement été consacré par l'ensemble des évêques de la diaspora.
Parmi lesquels se trouvait le futur patriarche Daniel, le métropolite de Moldavie à l'époque, donc qui a eu pour la première fois l'occasion de célébrer ici, dans cette église, et d'adresser la parole à la communauté paroissiale de Saint-Archange.
Tout à fait. Et d'ailleurs, l'an dernier, nous avons fêté le 125e anniversaire de l'acquisition de cette église par la couronne de Roumanie, et à cette occasion, le patriarche Daniel nous avait envoyé une lettre qui a été lue avec beaucoup d'émotion par Mgr Joseph, dans laquelle il demandait pardon.
Tout à fait, nous avons évoqué ce moment historique déjà dans une émission précédente, toujours avec vous. Et je rappelle qu'à l'occasion, c'était la 3e ordination donc, que Mgr Joseph a eu l'occasion de faire dans cette église, en présence de Mgr Nathanael. Et c'était votre ordination diaconale.
Voilà, c'était en fait il y a maintenant un an et demi, en novembre 2007, lorsqu'il y a eu le 125e anniversaire de cette acquisition, donc j'ai eu la joie d'être ordonné diacre, puis il y a 48 heures, celle d'être ordonné prêtre par Mgr Joseph dans cette église, où il a eu ce mot très aimable en disant qu'enfin on ordonnait un prêtre qui venait de cet exil.
Mais justement, je vous prie de nous évoquer un petit peu votre propre histoire qui se mêle avec l'histoire de cette paroisse et de cette communauté même. Et le fait que vous avez été ordonné donc comme 4e ordination de Mgr Joseph juste le jour où le rattachement de la paroisse de Saint-Archange à l'église mère a été fait, c'est un fait symbolique, comme Mgr Joseph l'a souligné d'ailleurs pendant la divine liturgie.
C'est effectivement tout à fait symbolique et j'y suis extrêmement sensible, mais je ne voudrais pas trop parler de moi. Simplement de dire que ce choix qui a été fait par son éminence, la date qui a été choisie aussi, ne sont pas le fait du hasard. C'est bien pour souligner à quel point le lien est maintenant très fort entre l'exil l'immigration, la diaspora, le pays, et étant un franco-roumain né en France, ayant connu cette église depuis ma petite enfance.
Vous étiez baptisé ici.
Voilà, et pas seulement baptisé, marié, baptisé mes enfants, etc. C'est une église à laquelle j'ai participé depuis mon adolescence, à peu près à toutes les manifestations importantes. À l'époque, il y avait une lutte anticommuniste très forte, et je faisais partie des activistes de ce mouvement. Et puis par la suite, j'ai été très très proche du père supérieur, du père Vassile Boldeanu, qui a été à la fois un père spirituel et puis qui a fait mon éducation roumaine, je crois.
Qui vous avait dit que ce chemin, le chemin de l'histoire, doit mener à l'église mère.
Tout à fait. Je me souviens très bien de la phrase, je vous la donne en français. Il m'avait dit un soir d'amertume, nous avions eu beaucoup de problèmes, des procès, etc. Il m'avait dit, ah, mais tu sais, malgré tout cela, un jour, nous reviendrons à l'église mère. C'est chose faite. Donc j'ai pas grand-chose à vous raconter à titre personnel, parce que c'est un chemin spirituel sur lequel il n'y a pas lieu de s'étendre au micro, mais simplement une grande joie, une immense joie de voir que cette communauté est en paix, est en règle. Et j'ai remarqué donc dimanche après-midi, lors de cette Assemblée Générale Extraordinaire, comme vous le savez, ça a été voté à l'unanimité, avec une abstention. Ce qui est très bien, ça marque le caractère démocratique du vote. Un vote comme ça, l'unanimité, est admirable quand on pense aux tensions qu'il y a pu y avoir dans le passé. Ça montre vraiment que toute la communauté est arrivée à une grande maturité. Et c'est une maturité que l'on doit aussi à Mgr Joseph, qui a su, avec sa maturité à lui, trouver le temps de la patience. Et de cela, il faut le remercier.
Vous avez dit aussi que la date n'était pas choisie par hasard. Qu'est-ce que veut dire la date du 10 mai d'abord? Et ensuite, on va parler un petit peu aussi du fait que c'était le dimanche de la guérison du paralytique, ce qui veut dire beaucoup aussi sur la guérison de cette plaie de la diaspora roumaine, et aussi du fait, peut-être, bon, c'est une coïncidence, mais heureuse coïncidence, le fait que vous êtes médecin, vous avez été ordonné le dimanche de la guérison du paralytique.
Oui, c'est beaucoup de choses. La première chose, c'est de dire que le 10 mai est, dans l'histoire roumaine, la véritable fête nationale. Je ne veux pas dire que les fêtes nationales qui aujourd'hui sont célébrées en Roumanie ne sont pas des vraies fêtes nationales. Il n'y a aucune discussion sur cette question. Mais dans la Roumanie classique, c'est-à-dire celle entre les deux guerres essentiellement, le 10 mai était la fête royale, où l'on commémorait plusieurs choses. Déjà l'union des principautés, l'arrivée du roi Charles Ier, enfin, etc., et l'indépendance roumaine. Donc tout cela formait trois grandes fêtes nationales qui se symbolisaient le 10 mai. Et la diaspora, ou l'exil si vous préférez, a toujours fêté le 10 mai. J'avais demandé à Mgr Joseph que, parmi les doléances que nous avions dans le rapprochement que nous faisions avec la métropole, le 10 mai figure désormais comme un jour de grande fête. Ce qu'il a accepté, il est même allé au-delà de ma suggestion, en prenant le 10 mai comme date d'ordination. Donc je lui suis extrêmement gré de ce geste très délicat.
Jeudi prochain va arriver à Paris sa béatitude Daniel, le patriarche de l'Église orthodoxe roumaine. Voici le programme de cette première visite en France d'un patriarche roumain. Jeudi prochain, 9 juillet, à 12h30, arrivé à la cathédrale orthodoxe roumaine des Saints Archanges, rue Jean de Beauvais, dans le 5e arrondissement de Paris, célébration d'un Te Deum avec la chorale des prêtres. À 17h, aux éditions du Cerf, 29 boulevard de la Tour Maubourg, dans le 7e arrondissement, présentation du livre « La joie de la fidélité ». Le patriarche parlera sur la théologie orthodoxe et la spiritualité. À 19h, à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris, 93 rue de Crimée, dans le 19e arrondissement, aura lieu la remise du doctorat honoris causa au patriarche qui parlera sur liberté et responsabilité dans l'Église. Vendredi, le patriarche Daniel va rencontrer les évêques orthodoxes de France à la cathédrale roumaine des Saints-Archanges. Ensuite, il va rencontrer son éminence, le cardinal André Vintois, archevêque de Paris. Puis, il va visiter la cathédrale orthodoxe grecque Saint-Étienne. Samedi, à Limours, à 9h, va commencer l'office de consécration de l'église de la résidence métropolitaine de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale. À 10h30, sera célébrée la divine liturgie pontificale, suivie par des agapes et un concert. À 16h, il y aura une rencontre et un dialogue entre le patriarche et les prêtres et les fidèles de la métropole. Dimanche prochain, à 9h, le patriarche Daniel va célébrer la bénédiction du sanctuaire de la cathédrale orthodoxe roumaine des Saints-Archanges de Paris, suivi à 10h30 par une divine liturgie pontificale. Lundi 13 juillet, le patriarche Daniel va visiter les cathédrales orthodoxes des trois saints hiérarques et de Saint-Alexandre de la Neva de Paris. Mercredi 15 juillet, il sera à Lyon pour participer à la 13e réunion de la Conférence des Églises européennes et il va rencontrer aussi la communauté roumaine de la ville et des environs. Et jeudi 16 juillet, le patriarche Daniel va prononcer son discours à la réunion de la Conférence des Églises européennes de Lyon. Vous venez d'entendre l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui. Les chants liturgiques ont été interprétés par le chœur des moines des monastères Simonos Petra et Saint-Antoine le Grand et les chorales Madrigal et Stavropoléos de Bucarest. Le réalisateur de l'émission, Bogdan Florin Vlaicu, vous souhaite une bonne semaine emplie de joie spirituelle et vous donne rendez-vous samedi prochain à 13h sur Radio Anguien 98 FM, dimanche prochain à 17h sur Radio Notre-Dame 100.7 FM et durant toute la semaine sur la rubrique podcast audio du site internet orthodoxie.com. Wow.